Et on fait l'histoire de l'Église aujourd'hui et dans toujours l'histoire des missions au XXe siècle. On va voir l'évangélisation de l'Afrique au XXe siècle. Bon, l'Afrique avait déjà été, nous l'avons vu au siècle précédent, l'objet de l'intérêt des missionnaires. C'était la grande épopée missionnaire avec Livingstone, Stanley, la CIM, etc. De nombreux missionnaires européens étaient allés évangéliser l'Afrique. Et quand on parlait de mission, jusque dans les années 50 du siècle dernier, c'était l'Afrique, quoi. Hein. Mission égale Afrique, Afrique égale mission. Bien. Parmi les grands missionnaires, les grands apôtres de l'Afrique qui ont marqué ce siècle, 20e donc, il faut citer Charles Studd. Charles Studd qui était anglais et qui... était donc un homme qui avait des relations avec un certain Monsieur Vincent, lequel s'était converti à Dublin, donc en Irlande, en 1877, en entrant par inadvertance dans un théâtre. C'était un homme qui aimait beaucoup les chevaux, qui était un homme très très mondain, et un jour il pensait aller passer une joyeuse soirée dans un théâtre de la ville. Et il est entré dans une salle de théâtre, mais où Moody et Sankey étaient en train de prêcher l'Évangile. Et ce qui a trompé M. Vincent, c'était le fait justement qu'il entendait chanter. Et de fait, c'était Sankey qui était en train de chanter un chant tiré de l'Évangile. Et quand il s'est rendu compte qu'il s'était fourvoyé, le riche armateur de chevaux a voulu faire demi-tour, mais on l'a poussé en avant, etc. Et il s'est retrouvé pratiquement au premier rang. C'était un des rares sièges vides qu'il y avait au premier rang. Et cet homme, qui était un riche planteur retraité des Indes, a été absolument bouleversé par le cantique que chantait Sankey. Il lui semblait que c'était de lui qu'il était question tout du long du chant, que c'était le Seigneur qui s'adressait à lui, toi qui es passé là, n'est-ce pas, c'est le Seigneur qui t'appelle, etc. Il a vraiment compris que c'était exactement ce qui était en train de se passer. Et donc ce soir-là, ce monsieur Vincent s'est converti. Et alors, il était en relation avec le père de Charles Studd, qui s'appelait donc Edouard Studd. Et il a dit, écoutez, il faut absolument que vous veniez écouter ces prédicateurs dans ce théâtre qui... c'était à Dublin, et quelque temps plus tard, donc, Sankey et Moody étaient à Londres, dans des conditions semblables. Et là, donc, il a dit, il faut absolument que vous alliez écouter ces gens-là. Et c'est ainsi que le père de Charles Studd est allé, poussé par ce monsieur Vincent, écouter l'Évangile à contre son gré, finalement. Il n'avait absolument pas le moindre intérêt pour l'Évangile. Pour lui, encore une fois, ce qui était sa passion, c'était les chevaux, etc. Et donc là aussi, le même phénomène s'est produit. Il a été bouleversé par l'Évangile, et ce soir-là, lui aussi, s'est converti. Il a immédiatement liquidé tous ses chevaux pour vivre après donc l'Évangile. Et donc, ce Ed Studd avait trois fils qu'il a également emmené ensuite écouter l'Évangile. Deux ans après, Charles Studd donc, s'est converti, comme les autres garçons d'ailleurs, qui, le même jour, les trois garçons se sont convertis, bouleversés par l'Évangile que prêchait Moody. Charles était étudiant à un des collèges très chics de l'Angleterre, le collège d'Eton. C'était la crème de la crème, en quelque sorte. Et parmi les jeunes bourgeois qui fréquentaient ce collège extrêmement huppé, la crème de la crème, pour dire les choses comme ça, c'était ceux qui jouaient dans l'équipe de cricket du collège. Cricket était le sport national des étudiants anglais à cette période-là. Et Charles était un des grands champions, enfin des futurs champions de cricket du collège d'Eton. Et donc, il était déjà célèbre comme joueur sportif. Charles Studd dira beaucoup plus tard que le cricket a été pour lui une école extrêmement importante aussi, que le Seigneur a utilisé pour le futur ministère qui devait être le sien, parce que c'est une école de courage, d'oubli de soi, et il n'a jamais regretté de s'être donné à fond. Il idolâtrait le sport, on peut dire, au moment où il s'est converti. Alors bien entendu, tout a changé quant à sa perception du sport à partir du moment où il s'est converti, mais il est resté encore une fois très reconnaissant au Seigneur de lui avoir permis de passer par cette école d'ascétisme en quelque sorte, qui lui a servi aussi beaucoup plus tard, bien sûr, dans son ministère en Afrique. Et immédiatement, le jeune Charles a organisé des réunions à l'université. Il a fait venir Moody, prêcher à l'université d'Eton. Seulement très vite, quelque chose de dramatique s'est passé. Il a rétrogradé. 6 mois après sa conversion, il a rétrogradé. Et il a repris, s'est relancé à fond dans le cricket. Et là, donc, il a percé à fond. Et il a été envoyé disputer des championnats de cricket en Australie. Là, deux chrétiennes avaient pris conscience de sa situation et prié pour lui, prié pour qu'il revienne au Seigneur. Et pendant qu'il était en Australie, il a reçu une lettre de ses parents lui disant qu'un de ses frères était malade à la mort, très 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 malade. Et ça, c'est quelque chose qui l'a bouleversé parce qu'il était très attaché à ce frère. Et soudain, il a pris conscience de la vanité de la vie, de la fragilité de la vie. Et finalement, il s'est rendu compte qu'il était en train de tout gâcher, que finalement, sa vie pouvait s'arrêter lui aussi brutalement que celle de son frère, qu'il était en train de tout gâcher, que le cricket, finalement, c'était un aspect de la vie qui se trouvait extrêmement relativisé devant l'éternité, devant la mort. Il a donc décidé de revenir au Seigneur. Et donc, il est revenu en Angleterre d'abord, et miraculeusement, son frère a été guéri. Mais le Seigneur avait permis cette maladie pour le ramener à lui en réponse à la prière, justement, de ces deux chrétiennes. Et de retour en Angleterre, étant revenu pleinement au Seigneur cette fois-ci, il a décidé de consacrer sa vie pour l'œuvre de Dieu. C'était l'époque de la grande époque de l'évangélisation de la Chine, notamment avec Hudson Taylor, et toute l'Angleterre, l'Angleterre évangélique ne parlait que d'Hudson Taylor et la mission donc à l'intérieur de la Chine. Et donc, il a décidé de partir pour la Chine dans la mission d'Hudson Taylor. Les parents essayaient de le dissuader et il a essayé d'entrer en contact donc avec Hudson Taylor. Il y avait en fait 7 jeunes gens, dont lui, qui cette année-là s'était levé pour partir en Chine. Et donc, il y avait parmi ces 7 candidats aussi des étudiants d'une autre université prestigieuse, l'université de Cambridge. Donc, Eton et Cambridge, c'était les deux grandes universités avec Oxford. C'était parmi les plus grandes universités anglaises à cette époque-là. Et les jeunes gens ont publié leurs témoignages dans les journaux. C'était l'époque où les journaux s'intéressaient encore aux choses religieuses. Ça n'a pas changé beaucoup depuis, bien sûr, vous le savez très bien, surtout en France. Bon, passons. Et donc, le bruit de cette conversion extraordinaire a atteint même la reine Victoria, qui s'est intéressée, qui a encouragé justement le départ de ces jeunes gens, car la reine Victoria, à cette époque-là, était une chrétienne convaincue. Et alors qu'ils se préparaient à partir pour la Chine, les 7 candidats organisaient des réunions de témoignages. Et ces réunions de témoignages, qu'ils ont tenues à peu près un peu partout dans Londres et dans la banlieue de Londres, ont provoqué un grand réveil parmi les étudiants, non seulement dans les grandes universités dont nous avons parlé, mais également au-delà. On a parlé à Cambridge du plus grand événement de l'université, de toute l'histoire de l'université, que ce réveil qui a été la conséquence donc, de la conversion de Charles Studd et de ses 6 camarades. Et c'est ainsi qu'en février 1885, les 7 candidats se sont embarqués pour la Chine. Charles Studd était au milieu d'eux. Pendant qu'il était là-bas, il a appris la mort de son père. Et à la mort de son père, Charles Studd s'est trouvé à la tête d'une colossale fortune. Son père était très riche. Et il s'est trouvé... Il était un des trois fils, donc ça, la fortune a été partagée en trois. Et il a donc touché un tiers de cette fortune, ce qui était énorme. Et il n'est pas resté longtemps, longtemps riche. En quelques mois, quelques années, il a dilapidé la fortune de son père pour l'œuvre de Dieu, évidemment. Et notamment pour l'œuvre d'Hudson Taylor, et aussi beaucoup pour Moody. Il avait beaucoup d'admiration et de vénération pour Moody, parce que c'était par l'intermédiaire de Moody qu'il s'était converti. Et donc, il a fait don d'une grande partie de ce qu'il avait hérité de son père pour l'œuvre de Moody. Et pour la petite histoire, c'est essentiellement avec l'argent de Ed Studd, donc le père de Charles, que Moody a pu construire l'Institut biblique de Chicago, qui est encore aujourd'hui une des institutions très très importantes. Charles Studd a aussi aidé William Booth, l'Armée du Salut, et puis George Muller. Hein, c'était bon. Il a simplement gardé pour lui une petite somme en vue de son mariage, car il entendait bien entendu se marier. En 1887, il est donc arrivé en Chine. Il était jeune missionnaire, et là, il a rencontré aussi une autre jeune missionnaire, une jeune fille qui se nommait Priscilla Stewart, qui s'était convertie 6 mois avant lui, qui était âgée de 22 ans aussi, et qui avait d'abord milité à l'Armée du Salut et qui, à la suite d'une vision, ensuite était partie pour la Chine. Elle avait donc écrit dans sa Bible cette vision, et elle était donc arrivée en Chine à peu près en même temps que Charles. S'était rencontrée là-bas, et Charles donc l'avait demandé en mariage. Elle avait d'abord dit non, et puis ensuite donc elle est revenue sur sa décision et elle a donc accepté d'épouser Charles. Charles lui a fait part donc de cet héritage qu'il avait fait et lui a demandé si elle était d'accord qu'il dilapide la fortune, quoi. Alors elle a été d'accord. Il n'y a pas eu de problème. C'était une femme de Dieu aussi, et bien sûr, ils ont commencé à vivre à la chinoise. C'était la règle, vous le savez, dans la mission d'Hudson Taylor, dans la simplicité, bien sûr. Et notamment, le jeune couple a créé en Chine un refuge pour les victimes de l'opium. C'était l'époque où ça faisait des ravages. Et donc, ils ont eu quatre filles et un fils qui est mort, hélas, en bas âge. Le principe de Charles Studd, principe qui est assez discutable au demeurant, enfin c'était leur principe et il n'est pas question de le juger, c'était de ne jamais faire appel à un médecin, de se confier dans le Seigneur uniquement pour la foi. Par exemple, peu après la naissance de son premier enfant, la femme de Charles Studd était tombée gravement malade, elle avait été guérie par l'onction d'huile. En 1893, c'est le premier retour au pays. La santé de l'un comme de l'autre est passablement délabrée. Ils ont déjà passé 10 ans en Chine. Et vu l'état de leur santé à l'un comme à l'autre, il n'est pas question de retourner en Chine. Charles voyage en toute la Grande-Bretagne pour faire connaître l'œuvre de Dieu. Et petit à petit, de retour au pays, sa santé se restaure. Et il a la grande surprise de constater, en retour en Angleterre, que le réveil qui avait marqué son départ a donné naissance à un mouvement qui a pris le mouvement de mouvement des étudiants chrétiens. Et par conséquent, il est invité, bien sûr, par ce mouvement à prendre la parole dans les différents endroits où des branches de ce mouvement sont implantées. L'année suivante, il est invité aux États-Unis, où le mouvement a migré. Il va passer 18 mois là-bas. Dans les différentes régions où donc est implanté le mouvement des étudiants chrétiens. Charles Studd avait non seulement la vision de la Chine, mais aussi au moment de sa conversion, il y avait un autre pays qui était sur son cœur, c'était l'Inde. Et Monsieur Vincent, justement, celui par lequel son père s'était converti, lui offre l'occasion justement de se rendre en Inde. Et alors que Charles Studd se trouve désargenté puisque justement il a renoncé à tous ses biens, Monsieur Vincent lui offre de payer les frais pour un voyage en Inde et notamment pour aller prêcher l'évangile aux planteurs qui appartiennent justement aux plantations de M. Vincent, qui avait fait sa fortune sur le fait justement de planter là-bas en Inde, enfin d'avoir des plantations en Inde. Il lui offre également un poste pastoral dont il assume les frais. Et ça va être donc pour Charles l'occasion d'un ministère extrêmement débordant là-bas, qui va aussi l'amener à des problèmes de santé, puisqu'il va avoir des crises d'asthme extrêmement difficiles. Et donc c'est en Inde qu'il a la joie de voir ses quatre filles se convertir. Il les baptise dans son jardin, où il y a une petite rivière qui passe. Et c'est en 1906 qu'il revient au pays pour la deuxième fois. Un début aussi de son retour en Suisse, c'est d'emmener ses filles dans un collège pour jeunes filles, pour leur donner une éducation, évidemment, qu'elles ne peuvent pas trouver en Inde. C'est évidemment souvent aussi le problème des missionnaires à cette période-là, au 19e et au début du 20e siècle, quand ils ont une famille, de faire en sorte que, à passer l'âge du primaire, quoi, hein, les enfants puissent avoir une éducation convenable. Et ils passent 2 ans en Europe, notamment en Suisse, de 1906 à 1908. C'est l'occasion pour lui de prêcher l'évangile en Europe. Et il a un grand succès à cause de son passé sportif. C'est l'époque déjà où on commence à s'intéresser aux sportifs qui se convertissent. Ça n'a pas changé beaucoup depuis, n'est-ce pas? Bon, ce n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs. Et il est célèbre non pas tant que prédicateur de l'évangile qu'ancien champion de cricket. Mais ça lui permet évidemment de prêcher l'évangile. En 1908, son regard est attiré par une affiche qui a été affichée par un médecin chrétien qui s'appelle Karl Kuhn, en Suisse. Et cette affiche dit ceci: les cannibales ont besoin de missionnaires. Et alors, c'est une parole qui te touche droit au cœur, n'est-ce pas? Il n'avait jamais pensé à l'Afrique. Cannibales, bon, c'est l'Afrique, bien sûr. Il a 50 ans, il n'est plus de prime jeunesse, il est sans argent, et il n'avait pas pensé, donc, vu son état de santé, repartir en mission. Mais là, il sent que le Seigneur l'appelle pour l'Afrique. Et là, donc, il prend des contacts, et sa première idée, c'est le Niger. Il part donc pour le Niger avec un autre missionnaire qui s'appelle Karl Kunes, lequel, en arrivant peu de temps après être arrivé au Niger, tombe malade, évidemment, en raison de la difficulté du climat. Charles décide donc de partir de là pour Khartoum, pour le Soudan. Mais la mission à l'intérieur du Soudan, la CIM, la fameuse CIM, le refuse à cause de son état de santé. Il dit qu'il n'est pas apte à cela. Mais Charles Studd est surtout préoccupé par l'expansion de l'islam en Afrique. Il a le fardeau sur le cœur, il faut absolument faire barrage à l'islam. Il ne faut pas que ce soit l'islam qui emporte la partie en Afrique. Il comprend ce qui est encore le point central aujourd'hui, le problème épineux numéro un de l'Afrique, que l'islam et le christianisme se disputent l'Afrique. Et il entend tout faire pour que ce soit évidemment le christianisme qui gagne. Alors, il décide de passer outre au veto de la CIM et de partir pour le Soudan, parce que le Soudan est proche de l'Égypte. Et là, bon, c'est d'ailleurs à cette époque-là un protectorat anglo-égyptien. Et les Égyptiens, évidemment, font tout pour promouvoir l'islam là-bas. Donc c'est la course de vitesse. Il n'a pas un sou, il est donc tout seul puisqu'il n'est pas soutenu par aucune mission, mais il part par la foi et le Seigneur pourvoit pour l'argent. Le 15 décembre 1910, il s'embarque donc pour Khartoum. Et là, pendant le voyage, Dieu lui parle. Il lui dit que d'abord, Dieu va le restaurer dans sa santé et lui donnera la force dont il a besoin. Et qu'il aura un ministère, l'essentiel de son ministère sera pour l'Afrique, mais pas seulement pour l'Afrique, mais également pour le monde entier. toute sa vie présente, lui dit, toute sa vie passée jusque maintenant, lui dit le Seigneur, n'a été qu'une préparation pour cette œuvre qui commence alors. Bon, il arrive à 50 ans, un âge où certains commencent à penser à la retraite, et le Seigneur lui dit que sa vraie vie commence seulement maintenant, quoi. Dieu lui dit aussi qu'il utilisera ses filles pour l'œuvre et que ses filles seront associées à son œuvre. Donc, quelques temps après, Charles Studd arrive à Khartoum, et là, il rassemble une équipe de jeunes missionnaires, qui ont 20 ans, donc il est vraiment le patriarche par rapport à ces jeunes-là. Et avec ces jeunes gens, y compris ses filles, donc il s'enfonce vers le sud. Bon, on est au début du 20e, hein, et il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, l'Afrique profonde était encore pratiquement terra incognita. Il n'y avait quand même pas si longtemps que Livingstone avait découvert les sources du Nil, donc en remontant justement le Nil à partir de Khartoum. Et là, évidemment, c'est une aventure presque insensée à cette époque-là pour un homme de cet âge. Il a pour compagnon un ancien étudiant de Cambridge, justement, qui s'appelle Alfred Buxton, dont la femme est restée au pays et qui l'accompagne. Il arrive donc au Congo, ce qui est à l'époque le Congo belge, qui est maintenant le Congo, c'est plus le Zaïre, ça a été le Zaïre pendant un temps, c'est plus le Zaïre maintenant. Enfin, de ces charmants pays africains où on s'entretue joyeusement, hélas, et qui était alors colonie belge, que les Belges exploitaient d'ailleurs absolument honteusement, il faut le dire. Et là, donc, il se trouve dans un endroit, il s'installe dans un endroit à la jonction de 8 tribus différentes. Un des drames du Congo, ex-belge jusqu'à nos jours, c'est les rivalités entre ethnies. Et si justement le Zaïre ou l'ex-Zaïre, le Congo, non, le Congo de Brazzaville, c'est l'ancien Congo français, comment ? Congo démocratique. Ça a repris le nom de Congo. Enfin, disons, bon, soit. Le Congo ex-Zaïre, disons ex-Belge, un des drames de ce pays jusqu'à nos jours, comment ?
Congo-Kinshasa,
voilà. Un des drames de ce pays, c'est justement les luttes entre ethniques qui s'entretuent et qui se. Bon, ça, c'est un problème qui n'a jamais été résolu. Et là, donc, Charles Studd va dans un des endroits extrêmement dangereux. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des meurtres de chrétiens, de missionnaires qui sont régulièrement assassinés, n'est-ce pas ? Et là, il est établi à cette station qui s'appelle Nala, ce qui sera son QG, le QG de la mission qu'il va créer. Et à partir duquel, avec les jeunes gens, l'équipe qui est avec lui, il va rayonner pendant 2 ans pour créer donc des stations missionnaires. Donc il se trouve secondé par 5 jeunes, et là très vite il comprend qu'il a besoin d'autres recrues. Il repart donc en Angleterre pour chercher d'autres jeunes gens qui seraient d'accord pour poursuivre l'œuvre. Buxton reste tout seul avec beaucoup d'Africains qui se sont convertis. Et c'est en route que donc il apprend que sa femme est gravement malade du cœur. D'autre part, ses filles se sont mariées avec beaucoup de ces jeunes gens qui étaient venus le seconder. Un de ses gendres meurt brusquement, alors justement qu'il est en route pour l'Angleterre. Mais Charles Studd ne se laisse arrêter ni par la maladie de sa femme, ni par la mort de son gendre. Et en 1916, donc en pleine guerre, il revient en Afrique avec des jeunes qui sont aussi qui ont l'appel pour l'Afrique. Une de ses filles va épouser Alfred Buxton, dont la femme est morte, n'est-ce pas ? Et là, de retour à Nala, Charles Studd trouve l'œuvre en pleine expansion, bien que ça a été payé aussi par la mort de 2 de ses collaborateurs qui n'ont pas supporté les fatigues, le climat, les maladies tropicales, etc. Charles Studd est toujours resté en contact avec l'œuvre de Moody, notamment il était en contact étroit avec l'Institut de Chicago, qui était, où Moody était mort, mais il avait été remplacé par des gens qui, notamment par Torrey, qui était un grand docteur de l'écriture, n'est-ce pas ? Et en quelque sorte, l'Institut Moody de Chicago a été aussi un des centres qui a permis d'aider financièrement l'œuvre de Moody. Toré est un de ces grands docteurs qui a écrit notamment ce que la Bible enseigne, qui est un classique, un manuel classique aujourd'hui pour tous les étudiants évangéliques qui veulent se former au service de Dieu. Il est traduit en français. Je ne sais pas si on l'a marqué, on doit l'avoir dans la bibliothèque, n'est-ce pas? Et donc, il est le successeur de Moody à l'Institut de Chicago. Toré est quelqu'un qui, en fait, n'a jamais fait d'études de théologie officiellement, mais qui est un docteur au sens d'Éphésiens 4, quoi. Et donc, c'est un très, très grand ami de Charles Studd. Et depuis l'Institut là-bas, il fait tout son possible pour développer l'œuvre qui se fasse là-bas. Bon, l'Afrique, au début du XXe siècle, est encore un pays véritablement sous-développé, où règne la sorcellerie, l'impudicité, l'adultère, la violence, les meurtres dont nous avons parlé tout à l'heure. Bien que Charles Studd ne soit pas directement associé avec le mouvement de Pentecôte, qui naît seulement alors, et dont il n'a pas véritablement entendu parler, dans la mesure où il est quand même au fin fond de l'Afrique, n'est-ce pas ? Charles Studd est quelqu'un qui exerce le ministère de guérison par la foi. On a vu que pour lui-même, c'était sa règle. Il ne faisait jamais appel à un médecin. Il mourra d'ailleurs de ça, finalement. Il aurait pu être sauvé, il aurait pu, s'il avait été soigné, mais bon. Enfin, c'est son option. C'était une manière pour lui de vivre par la foi. Et notamment, il a eu dans son ministère des résurrections de morts en Afrique. C'est pas une résurrection de morts attestée. Et là, donc, Charles Studd aussi va être un homme qui va former des ministères indigènes. C'est avant la lettre. Ça, c'était une innovation de la part de cet homme de Dieu, parce que les missionnaires blancs, les missionnaires européens en Afrique en particulier, en Chine c'est moins vrai, en Inde aussi bien sûr, parce que ce sont des pays qui sont plus développés. Mais l'Afrique, n'est-ce pas, à cette époque-là, c'est l'image d'Épinal que vous trouvez dans Tintin au Congo, par exemple. Le noir Yabombanania, quoi. L'idée que les noirs sont presque des sous-hommes, quoi, et qu'il n'y a rien à attendre d'eux, et il y a une espèce d'esprit colonialiste, paternaliste, de la part de beaucoup de missionnaires blancs, qui nuira d'ailleurs à l'évangélisation considérablement par la suite, et contre lesquels, au milieu du siècle, les églises indigènes se révolteront. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y aura une émancipation des églises africaines, mais qui ne sera pas sans douleur. Les missionnaires blancs ont du mal à concevoir que les Africains puissent être leurs égaux. Ça fera tout un temps pour qu'ils en arrivent. Certains vivent d'ailleurs parfois d'une manière qui est presque scandaleuse pour les Africains. Bon, par rapport au niveau de vie de l'Occident, c'est un renoncement que font ces missionnaires, mais par rapport aux blancs, par rapport aux noirs, c'est quelque chose qui passe mal. Charles Studd, justement, lui, a pour principe de vivre pratiquement au même niveau que les Africains, ce qui fait qu'il est évidemment beaucoup mieux accepté que ne sont d'autres missionnaires. Mais Charles Studd, lui, justement, est quelqu'un qui considère que les Noirs sont des égaux. Il n'y a pas de problème pour lui. Il se rend compte qu'ils sont intelligents aussi bien que les Blancs et qu'il n'y a aucune raison pour que ces gens-là... Bon, ils ont un retard à combler, évidemment, parce que il n'y a pas eu le développement qu'il y a eu dans les pays d'Occident, mais que si on leur donne ce développement-là, il n'y a pas de raison que... Et alors, très vite, il entend former des missionnaires africains, des missionnaires indigènes, et il va bientôt se trouver avec 50 Africains qui vont le seconder et qui vont évangéliser donc les régions avoisinantes. Mais il se rend compte aussi très vite que ces Africains, bon, c'est pas dû à la race, ça n'a rien à voir avec une question de racisme, mais ça tient à leur éducation, à leur passé, etc. Certains, par exemple, tombent dans le péché, dans l'adultère. Il apprend que certains de ses collaborateurs, bon, et là donc, il revoit toutes les bases et il va se mettre à prêcher à fond la sanctification. Il se rend compte que ça, c'est quelque chose qui manque considérablement. En 1919, à la fin de la guerre, il reçoit des renforts d'Angleterre, donc de blancs, dont un missionnaire qui épousera sa dernière fille. Entre-temps, sa femme a été guérie miraculeusement alors qu'elle était restée en Grande-Bretagne parce que sa santé ne lui permettait pas de supporter donc, le climat de l'Afrique. Un de ses gendres se rend en Angleterre, s'appelle George Barclay. Et là, il répand un peu partout en Angleterre la vision de son beau-père, soutenue aussi par sa belle-mère, donc Madame Charles Studd. Et alors, là-bas, son gendre crée, avec bien entendu l'appui de son beau-père, la croisade mondiale d'évangélisation. C'est-à-dire que la vision que le Seigneur lui avait donnée quand il était parti pour le Soudan se réalise. Ce n'est pas seulement l'Afrique, mais c'est mondial. Donc, et là aussi, donc, Torrey, depuis Chicago, appuie la création donc de cette mission qui a une vocation mondiale, porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et après l'Afrique, donc, la mission mondiale d'évangélisation va attaquer l'Amérique du Sud. Et en 1922, donc, une branche de la mission se crée en Amérique du Sud, dans des régions qui ne sont pas évangélisées, notamment au cœur de l'Amazonie. Au cœur de l'Amazonie, où il y a aussi des populations extrêmement primitives, vous le savez. Et là, donc, des missionnaires, un missionnaire, des missionnaires sont envoyés, et un d'entre eux est tué par les indigènes, qui, évidemment, voyant débarquer ces Blancs, ne comprennent pas trop, se sentent menacés, et puis bon, une incompréhension se crée, un des missionnaires est tué. Et c'est alors que trois jeunes missionnaires australiens décident, bien, nous allons aller le remplacer. Il faudra que, pour chaque missionnaire qui perdra la vie, eh bien, trois autres se lèvent pour faire l'œuvre de Dieu. Et la vision de Charles Studd, et également partagé par cette branche sud-américaine de l'œuvre, savoir que ce ne sont pas seulement des Africains, des Européens qui doivent évangéliser ce qu'on appelle à cette époque-là les indigènes, n'est-ce pas? Mais ce sont également des locaux, des gens qu'il faut former justement pour qu'ils évangélisent leurs frères. Et la mission en Amérique du Sud crée, n'est-ce pas, des centres de formation pour que des Indiens puissent être formés à l'évangélisation. Puis, de là, la mission migre en Asie centrale, le Tibet. Il ne faut pas oublier que Charles Studd a gardé le fardeau de la Chine en particulier, hein. Et aussi, son grand souci pour l'islam, qu'il gardera toute sa vie, n'est-ce pas, l'amène aussi à attaquer l'Arabie, essayer d'attaquer l'Arabie. Évidemment, ce n'est pas quelque chose de très facile, mais à cette époque-là, l'Arabie n'est pas comme aujourd'hui un État centralisé et autoritaire avec des moyens modernes, mais un conglomérat de tribus nomades, une espèce de no man's land finalement qui, officiellement, est en quelque sorte une colonie de la couronne britannique, mais dans les faits, il règne une espèce d'anarchie. Donc, des missionnaires peuvent s'y aventurer à leurs risques et périls, bien évidemment, dans ce sens que localement, les tribus peuvent leur faire un mauvais sort. Mais aujourd'hui, évidemment, ce serait impensable parce que l'État centralisé saoudien interdit toute forme d'évangélisation sur le territoire de l'Arabie. Puis, il s'étend donc en Afrique occidentale, qui alors à cette époque-là est en général colonie de la couronne britannique, la Guinée espagnole, puis ensuite en Amérique du Sud également, la Colombie. Un des principes de Charles Studd, c'est aussi de ne faire jamais le moindre appel d'argent. Donc tout se fait également par la foi. Mais dans ces années-là, dans les années 20 du 20e, Charles Studd aussi sent soudain le besoin d'une effusion profonde du Saint-Esprit. Et là, il se met à rechercher une plus grande consécration, une plus grande sanctification et une plus grande puissance du Saint-Esprit. En Afrique, où il a toujours son centre, parce qu'il dirige la mission depuis l'Afrique finalement, depuis la Nala, où il a installé son quartier général. Un certain nombre de ses collaborateurs trouvent qu'il met trop l'accent sur la sanctification. Et donc là, il y a une tension, des tensions qui se créent à l'intérieur de la mission, tant et si bien que Charles Studd est obligé de renvoyer en Angleterre un certain nombre de ses collaborateurs qui n'acceptent pas sa vision. Alors c'est évidemment une séparation assez douloureuse, mais finalement, Il y a d'autres qui démissionnent aussi, d'ailleurs, spontanément, sans qu'ils soient amenés à les renvoyer. Mais finalement, en 1925, le réveil qu'ils réclamaient éclate dans toutes les stations missionnaires. Il y a une reconsécration qui se fait et la bénédiction de Dieu se répand alors comme une traînée de poudre. Pendant ce réveil, Charles Stud lui-même, qui est un musicien émérite, dans ce sens, il joue beaucoup, de la mandoline notamment, eh bien, va composer 200 cantiques. N'oublions pas aussi que c'est un homme qui s'est converti du moins son père s'est converti en entendant chanter Sankey. Et Charles Sud aussi accorde une grande importance à la musique pour évangéliser dans l'évangélisation. Charles Sud est un homme qui vit d'une manière très simple et il travaille beaucoup avec ses gendres qui lui sont très proches. Et Charles Studd est un homme qui a une vitalité débordante, il ne se ménage absolument pas. Et il va mourir donc à 70 ans, à l'âge de 70 ans, bêtement finalement, parce qu'il a attrapé un calcul, à vésicule biliaire, qui selon son principe, il ne veut pas soigner. Il aurait pu être opéré, bien entendu, et ça, il aurait pu vivre encore quelques années. Et finalement, il va mourir des complications de ce calcul, quoi, qu'il n'arrive pas à évacuer. Dans de grandes souffrances, d'ailleurs, bien évidemment. Il a néanmoins eu la joie de voir l'unité de ses 40 collaborateurs se refaire en 1931. Donc, c'est l'année de sa mort, 1931. 2 ans avant, 1920, 3 ans avant, sa femme l'avait rejoint. Et elle meurt aussi peu de temps après Charles, c'est pas, soudainement, d'ailleurs. Et la mort du couple Stud va être aussi une grande bénédiction pour l'Église africaine, dans ce sens que soudain, bien, l'Église africaine va se rendre compte qu'elle est privée de son apôtre. Et en même temps, elle prend conscience de sa vocation missionnaire, du besoin qu'elle a de se ressaisir, de se reconsacrer au Seigneur. Et donc, à sa mort, c'est un de ses gendres, avec sa fille qui s'appelle Norman Gubb, qui reprend la direction du mouvement. Norman Gubb est un homme qui a écrit de nombreux ouvrages à partir des principes justement de Charles Studd. On a, je crois, de ses bouquins aussi dans la bibliothèque. Et là, donc, c'est une époque extrêmement difficile qui suit la mort de Charles Studd parce que c'est l'époque de la Grande Dépression des années 29, quoi, hein, crise économique qui touche l'Europe. Et qui fait aussi, bien entendu, qui a des répercussions en Afrique, dans ce sens que les dons, bien que Charles Studd avait pour principe, nous le savons, de ne faire aucun appel d'argent, les dons, évidemment, arrivent d'une manière beaucoup plus difficile. Et là, c'est l'époque où, au contraire, l'œuvre est en pleine expansion. Et Norman Gubb demande au Seigneur 25 nouveaux ouvriers. Et ces ouvriers, bien, il faut les soutenir. Et une époque où les dons se raréfient, eh bien, c'est un formidable pas de la foi. Or, malgré les conditions difficiles, le Seigneur répond. Et les 25 ouvriers demandés arrivent. Et non seulement les 25 ouvriers arrivent, mais également, dans les temps qui viennent, et dans les temps qui suivent, l'œuvre aussi s'étend en Inde, notamment au Cachemire. Le Cachemire, qui vous le savez, est encore à la une de l'actualité aujourd'hui parce que il est partagé entre l'hindouisme et l'islam. Et le Cachemire aussi est un endroit où Charles Studd entend, enfin Charles Studd entendait, et son gendre reprend la vision, n'est-ce pas, faire barrage à l'islam. Et la branche de la mission de Charles Studd qui s'installe en Inde s'installe au Cachemire, dans un endroit stratégique, là où justement il faut évangéliser les musulmans. Puis de là, donc, Charles Studd passe en AOF, ce qu'on appelle à l'époque l'AOF, c'est-à-dire l'Afrique occidentale française, qui évidemment, en 1960, deviendra indépendante et différents États vont naître là-bas. Mais à cette époque-là, ce sont des colonies françaises, toute la région justement Niger. Je crois que Niger, c'était aussi français, hein, Marc. Donc, Haute-Volta, ce qu'est la Haute-Volta, le Burkina Faso maintenant, la Côte d'Ivoire, tout ça, c'était la OEF à cette période-là. Et donc, la mission de Charles Studd va envoyer des ouvriers là-bas. Et notamment en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, où un curieux personnage s'est levé, celui qu'on appelle le prophète Harris. Je ne sais pas si tu as entendu parler, Marc, prophète Harris, qui est un homme qui a un don de prophétie, manifestement, mais qui a une connaissance assez limitée de la Bible. Finalement, c'est un Africain. Mais Dieu lui a parlé. Et il parcourt toute la OEF, donc la Côte d'Ivoire, le Sénégal, beaucoup de tribus primitives. Lui-même, il était originaire de tribus primitives. Et là, donc, il prêche l'évangile. Il prêche l'évangile et il a un succès extraordinaire. Il a des multiples conversions. Et lorsque les missionnaires arrivent, n'est-ce pas, dans ces pays-là, ils ont la grande surprise de trouver des gens qui sont déjà convertis, mais qui ont besoin d'approfondissement. Parce que le prophète Harris avait une connaissance limitée de l'Écriture. Et par conséquent, il les amène au Seigneur, il les amène aux choses élémentaires de la foi, mais ça ne va pas plus loin, hein. Et alors, sur les traces de ce prophète Harris, n'est-ce pas, il y a un travail extrêmement fécond qui se crée dans tous ces pays d'AOF. Et aujourd'hui, donc, à la fin du siècle, il y avait donc 40 champs missionnaires qui dépendaient de la mission créée par Charles Studd, qui allaient donc depuis les Antilles, le Tibet, la Chine, l'Indochine, jusqu'au Japon. Et en 1941, la mission en question crée la croisade du livre chrétien. C'est une émanation justement de ce mouvement qui, comme son nom l'indique, est une œuvre missionnaire par l'intermédiaire de l'imprimé. Tu veux dire quelque chose? Non? Non, non. Par l'intermédiaire de l'imprimé. Et là aussi, basé sur la diffusion de l'imprimé qui se fait par les indigènes. Éventuellement, en France, il y a des indigènes français qui font le travail. Après tout, nous sommes des indigènes aussi, bien sûr, hein. Faut pas s'illusionner. Bon, encore une fois, je dis ça sans ironie mordante, parce que la mission de Charles Studd est une de celles, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on peut le moins taxer de colonialisme et de paternalisme et finalement de supériorité des Blancs sur les autres. C'est tout simplement comme ça, quoi. C'était le principe, et justement le fait qu'il faille diffuser la parole imprimée par des indigènes est la preuve justement qu'il n'y a absolument aucun racisme de la part de la mission. Donc aujourd'hui, cette mission est répandue dans 43 pays et elle diffuse des traités, des livres, etc., dans 77 langues. La mission crée aussi un mouvement en faveur des lépreux. Un des fléaux de l'Afrique, c'est justement aussi la lèpre. La lèpre, qui est une maladie, finalement, si elle est soignée, finalement assez bénigne, dans ce sens que maintenant, bon, c'est une maladie qui est proche de la tuberculose, si je ne m'abuse. Hein, Olivier, c'est un bacille qui est voisin du bacille de Koch, et qui se soigne pratiquement avec les mêmes médicaments, je crois. Hein. Non, aussi, enfin oui, c'est ça, oui. Et alors, donc, le problème, c'est qu'évidemment, c'est. Bon, à cette époque-là, on est encore au début du siècle, il ne faut pas oublier que la tuberculose n'était pas vaincue. Et que beaucoup encore, jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est dans les années, fin des années 50, 60, qu'on a réussi à éradiquer la tuberculose. Hein, Olivier, c'est à peu près ça, je crois. Et par conséquent, jusqu'à aujourd'hui, bien qu'aujourd'hui, donc. Par exemple, des gens qui seraient lépreux dans nos pays, ce qui peut arriver d'ailleurs. Hein, c'est assez rare, mais j'ai connu des gens qui sont revenus d'Afrique et qui avaient contacté la lèpre là-bas, en Afrique. Hein. Bon, ben, c'est une maladie bénigne, ça se soigne d'une manière sans aucune conséquence, quoi. Hein. Il y a des centres spéciaux pour ce genre de maladies, au centre, dans les hôpitaux spécialisés pour les maladies tropicales. Je ne sais pas si à Lorient aussi, oui, les Brest ou Lorient, où tu étais, non pas à Lorient. À Brest, il y a ça. Bon, parce qu'effectivement, il y a aussi des marins qui peuvent avoir des choses comme ça. Mais si ce n'est pas traité, ça peut être extrêmement, extrêmement préjudiciable à la personne qui en est atteinte. Non pas tant que ça conduise à la mort, mais ça conduit à une dégénérescence des nerfs. C'est ça, Olivier, je ne dis pas de bêtises. Et atrophie des nerfs, et vous avez vu par exemple des lépreux qui ont ils ont les phalanges recroquevillées aux mains et aux pieds, aussi sur le visage, etc. Et alors, il y a une insensibilité qui se crée. Et alors, par exemple, le dérongeur vient manger les phalanges des malades sans qu'ils en aient conscience, quoi. Alors, c'est pour ça que souvent, ils sont mutilés, non pas tant parce que la maladie elle-même en fait qu'il y a une mutilation, mais c'est simplement parce qu'ils ne réagissent pas plus à la douleur. Et alors, bon, les mouches, par exemple, aussi viennent attaquer le visage et tout ça, toutes sortes de parasites. Et alors, c'est épouvantable pour ces pauvres gens. Alors, donc, déjà, le docteur Schweitzer soignait ça à l'embarrené. Et alors, il y a des missions spéciales qui ont été créées, missions contre la lèpre. Alors, ces missions, évidemment, non seulement diffusent les traitements là-bas qui permettent justement de vaincre la lèpre dans les premiers stades de son développement, mais pour ceux justement qui sont déjà atteints à un stade avancé où on ne peut pas évidemment revenir sur ce que la maladie a détruit, les nerfs, tout ce qui a été dégénéré est dégénéré. Mais alors, justement, il y a tout un travail chirurgical qui peut être fait sur ces gens-là, notamment pour leur remettre des prothèses et des choses comme ça. Et donc, la mission de Charles Studd a été une de ses premières missions qui a créé une branche spéciale pour la lèpre, c'est-à-dire pour amener des médecins et des chirurgiens chrétiens à venir soigner les lépreux, justement, et essayer de limiter chez eux les conséquences, justement, de la lèpre. C'est en 1928, déjà, c'est-à-dire peu de temps avant sa mort, que Charles Studd avait eu cette vision d'aider les lépreux, parce que c'était des conditions tellement épouvantables pour les gens qui étaient touchés par cette maladie qu'il avait été ému de compassion pour eux. Et donc, au début, il n'avait que des infirmières pour soigner ces gens-là. Les médecins ne voulaient pas venir soigner les lépreux. Puis bon, petit à petit, bien donc... ces pays-là en faveur de ceux qui sont encore malheureusement atteints par cette maladie qui, encore une fois, dans nos pays est devenue tout à fait banale, mais qui, dans les pays où elle n'est pas soignée, eh bien, encore, commet encore des ravages épouvantables. En 1964, la croisade crée aussi des stations de radio. Et c'est l'époque où l'essentiel des pays d'Afrique devient indépendant. Et le modèle de vie des Blancs devient extrêmement fascinant pour les Africains. Et il y a un objet que les Africains convoitent par-dessus tout, c'est la radio. Je ne sais pas si tu as vu ça, Marc, en temps aussi, non ? Donc un boom se fait sur la radio. Et en même temps, n'est-ce pas, la radio, c'est quelque chose qui fascine l'Africain. Et qui, grâce au transistor, peut donc être répandu dans la brousse la plus profonde, mais également qui permet à toutes sortes de gens d'exercer des propagandes plus ou moins discutables. Par exemple, les années 60, c'est aussi l'époque où le marxisme tente de s'implanter en Afrique, essaye d'exploiter la misère, justement, de l'Afrique pour provoquer une révolution. Et malheureusement, ces révolutions seront souvent sanglantes. Par exemple, justement, dans les années 60, l'indépendance du Congo belge se fait dans un bain de sang épouvantable. Et tous les Africains un petit peu intelligents qui réfléchissent disent que la décolonisation a été faite trop vite, et notamment au Congo. Hein. Il aurait fallu planifier ça sur plusieurs décennies pour que ça se fasse bien. Hein. Et la décolonisation, contrairement à ce qu'on affirme d'une manière simpliste, ne va pas se produire à l'avantage des pays qui étaient autrement colonisés. Ça va être une régression sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Et les pouvoirs coloniaux qui avaient réussi plus ou moins à maîtriser justement les antagonismes entre les ethnies et éviter qu'ils s'entretuent, quand les Blancs partent, justement, ces guerres tribales vont reprendre de plus belle et vont faire des hécatombes épouvantables. Et on peut dire que jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique, qui est une des régions qui ne décolle pas du tout au point de vue économique, hein, au point de vue développement d'une manière générale, eh bien, c'est en grande partie dû à ces massacres qui se perpétuent jusqu'à nos jours. Je citais le Congo tout à l'heure. On pourrait parler des pays voisins tels que ceux qui ont défrayé la chronique cet an dernier, comment... Côte d'Ivoire, oui, bien sûr, mais aussi où il y a eu des génocides, là, Rwanda, etc. Oui, bon, tout ça. Bon, ça, c'est dû à une décolonisation trop rapide, hein, qui n'a pas été maîtrisée. Or, justement, les marxistes, d'une part, les communistes russes à cette période-là, on est encore en pleine guerre froide, c'est l'époque de la guerre des fusées, enfin de l'affaire des fusées de Cuba, souffle sur le feu, souffle des braises, envoie là-bas des conseillers, des gens qui incitent les Noirs à massacrer les Blancs, d'où justement la mort du docteur Carlson en 1965, 1962, 1965, des stations missionnaires entières qui sont ravagées à coups de machette, enfin dans des conditions de sauvagerie absolument épouvantables, dont le docteur Carlson, qui était un homme alors absolument dévoué pour les Africains, qui était aimé par tous les Africains, et donc les marxistes d'obédience moscovite l'ont fait prisonnier. Il était otage, il devait être échangé. Alors, il y a eu comment dirais-je, avec les Américains, il y a eu un marchandage avec les Américains. Les Américains étaient prêts à libérer, etc., ce qu'on leur demandait. Bon, il y avait des querelles entre le Katanga, qui était très riche, qui était exploité par les Belges, il y avait des mines de diamants, etc. Il y avait là quelqu'un certain Moïse Tshombe, qui était un homme qui était, se disait chrétien d'ailleurs, enfin, il était-il vraiment, ça, j'en sais rien. Et puis donc la marxiste qui était à Kinshasa, s'appelait Lumumba, qui a fini par être massacrée d'ailleurs par des révoltes internes, bon, etc. Enfin, c'était un bain de sang, c'était une anarchie épouvantable les années 60 au Congo. Et finalement, bon, il devait être libéré et que tout le monde attendait sa libération, le docteur Carlson a été massacré. A été massacré avec tous ceux qui étaient avec lui, quoi. Bon, ben ça, c'était des choses qui étaient tout à fait classiques dans l'Afrique de cette époque-là. Et par conséquent, ensuite, il y a eu les maoïstes qui étaient anti-marxistes moscovites. Alors, tout ce beau monde-là s'entretuait. Bon, il y a eu le problème de l'Angola aussi dans les années 70. Alors là, aussi, c'était un véritable bain de sang épouvantable. Il y a eu les problèmes d'Afrique du Sud. Enfin, c'était inextricable. C'était des problèmes inextricables. Bon. La décolonisation dans les anciens territoires français s'est passée en général un peu mieux. D'abord parce que justement le général de Gaulle avait eu une première idée, c'était de ne pas donner une totale indépendance aux pays, du moins ceux qui le souhaitaient. Mais il avait créé ce qu'on appelait, à partir de 1960, la communauté française. La communauté française, c'était une évolution de l'ancienne Union française. Jusqu'après la guerre, on n'a pas, après la Deuxième Guerre mondiale, les colonies françaises sont devenues l'Union française. Déjà, il y avait une évolution vers une espèce de, sinon d'indépendance, du moins une plus large autonomie des colonies. Ça veut dire que, en principe, les pays d'Afrique, les pays de colonies françaises, disons, parce qu'il y avait l'Indochine aussi à cette période-là, qui était en train d'ailleurs d'être perdue, avait la possibilité d'évoluer. Et alors, la France, qui n'était pas raciste, contrairement à d'autres pays, comme par exemple le Portugal, qui avait des colonies aussi en Angola, au Mozambique, le Guinée-Bissau, etc., eh bien, faisait en sorte de créer des élites africaines qui venaient, par exemple, étudier ici dans les grandes universités françaises et qui retournaient ensuite là-bas. Donc, là, il y avait, bon, ça a été un peu plus planifié du côté français. Quand le général de Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, dès 1960, quand il est devenu président de la République, il était président de la République et de la communauté. L'Union française est devenue communauté d'États associés, qui étaient en quelque sorte indépendants, mais qui avaient une politique commune sur le plan affaires étrangères, sur le plan de la défense, et aussi une politique monétaire et économique concertée, sinon unifiée, disons. Hein. Bon, parmi ces États, donc, il y a eu un référendum, et les anciennes colonies françaises se prononçaient. Il y avait trois questions qui étaient posées. Vous savez, le général de Gaulle était un grand adepte du référendum. Ou bien alors, maintien dans l'Union française. Aucun pays d'Afrique n'a retenu cette solution-là. Ou bien l'indépendance complète. Alors, la Guinée française, sous la direction d'un marxiste, s'appelait Sékou Touré, qui était une espèce de moitié de fou, qui s'est quasiment divinisé. Il avait tressé une grande photo de lui-même. Ah non, c'était son copain Nkrumah du Ghana, qui était à peu près un homme de son acabit. Il avait dressé une grande statue de lui-même. Il était Jésus-Christ. Et alors, il avait dit: cherchez premièrement le royaume politique et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'était écrit sur le. Bon, il a été déboulonné comme Staline. La statue a sauté quand il y a eu une révolution, etc. Enfin, voilà le genre de bonhomme. Ça, c'était l'Afrique dans sa splendeur à cette période-là. Donc, à part ce détraqué de ces Koutourés qui étaient poussés en sous-main d'ailleurs par la Russie soviétique, la plupart des chefs d'État donc ont opté pour la communauté française, comme on l'appelait à cette époque-là. Il y avait des gens très très intelligents à cette période-là qui étaient issus des grandes universités françaises, tels que Léopold Senghor, qui était devenu président du Sénégal et qui était un ami d'université de Georges Pompidou. Il y avait donc comment il s'appelait celui de Côte d'Ivoire là, Houphouët-Boigny, qui était aussi qu'on appelait le sage de l'Afrique. Hein. Donc c'était des gens qui étaient modérés, qui étaient tempérés, qui étaient intelligents et qui ont fait que la décolonisation dans l'ancienne AOF et l'ancienne AEF, donc Afrique équatoriale française, s'est fait à peu près bien. Bon, ça n'a pas été le cas. Dans certaines colonies britanniques, notamment justement au Kenya, dans les anciennes Rhodésies, ce qu'on appelait les Rhodésies, qui sont devenues maintenant des. Je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, enfin bref. Et là, donc, puis alors, le drame, ça a été l'Afrique centrale, quoi. Le Congo, et le Congo ex-belge, le Rwanda, tous ces pays-là, quoi. Là, ça a été le bain de sang épouvantable, quoi. Alors, la radio a servi beaucoup. Les Soviétiques puis les Chinois ont installé des puissants émetteurs qui diffusaient en direction de l'Afrique pour amener justement l'Afrique à se soulever contre les Blancs. Les Blancs étaient les oppresseurs, etc. La Russie allait au contraire les amener le paradis marxiste. Et alors justement la plupart de ces pays africains, enfin, hors de l'ancienne Union française en tout cas, mis à part la Guinée essentiellement, puis quelques petits pays, je crois, je ne sais pas si le Togo n'a pas suivi un peu aussi cette évolution-là. Mais ces gens-là donc adoptaient le modèle marxiste. Bon, ça a été une catastrophe. Pour vous montrer un petit peu l'aide que la Russie envoyait, on envoyait des chasse-neige là-bas. Bon. Oui, non, mais c'était comme ça, quoi. La Russie envoyait des chasse-neige en plein cœur de l'Afrique. Bon. Vous voyez ce que ça a fait, quoi. Alors, un des drames de l'Afrique actuelle, c'est non seulement justement le fait qu'il a été décolonisé trop vite, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi de ce que la plupart des pays ex-colonisés ont adopté le modèle marxiste. Et encore aujourd'hui, ben, ils souffrent de ce marxisme dont ils sont pas encore totalement dégagés. Alors le marxisme a entraîné non seulement des tueries épouvantables, des guerres civiles entre pro-marxistes et anti-marxistes, mais également un sous-développement endémique. Et alors les gens ont appris là-bas, comme ce qu'on apprend dans tous les pays socialistes, ça veut dire à ne pas travailler, à compter sur l'État, à compter sur l'aide extérieure. Bon, notamment les fameux États colonialistes. Ont dû justement bah, subventionner leurs anciennes colonies et leur apprendre à vivre sans travailler. Les élites, les soi-disant élites, ont confisqué toute l'aide à leur profit. Et alors, on a assisté dans ces pays à l'émergence d'une classe extrêmement riche, qui était celle des élites en question, justement, qui vivaient dans un luxe parfois absolument épouvantable. Qu'on se souvienne, par exemple, de l'illustre Bokassa, empereur de Centrafrique, qui avait été couronné en grande pompe par Giscard d'Estaing lui-même, n'est-ce pas, qui se prenait pour Napoléon, le Napoléon de l'Afrique, qui avait offert en récompense à Giscard d'Estaing les fameux diamants qui lui ont d'ailleurs si mal servi, et puis qui avait dans son frigidaire, qui était encore au cannibalisme, il avait dans son frigidaire, comme on le savait, des restes humains dont il régalait ses hôtes de passage, enfin des choses comme ça, quoi. Hein. Bon, le vaudeville avec l'horrible, quoi. Hein. Alors, les chrétiens ont vite compris qu'ils pouvaient utiliser aussi le transistor pour prêcher l'évangile. Il a été créé dans les années 60, donc des stations, bon, d'abord, il y a eu Transworld Radio, qui continue à diffuser à destination de l'Afrique, donc constamment. A été créé aussi au Libéria. Le Libéria était un pays qui était devenu une espèce de protectorat nord-américain. Les Américains du Nord, jusque dans les années 60, jouissaient d'un prestige auprès de l'Afrique, parce que justement, ils n'étaient pas des États colonialistes. Et les Américains ont essayé de remplacer justement les Anglo-Français, qui eux étaient taxés justement d'être colonialistes, surtout les Anglais, beaucoup plus que les Français. Et ils ont créé donc une espèce de colonie qui était d'anciens esclaves révoltés qui avaient pris le pouvoir, d'où le nom de Libéria, justement, le pays libéré, qui était un protectorat américain après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, les Américains ont créé une grande station missionnaire qui s'appelait Radio Eloah, qui existe toujours, je pense, et qui diffuse l'évangile donc à destination de toute l'Afrique. Plus tard, évidemment, l'Arabie saoudite a aussi utilisé le même moyen. Et alors, donc, dans les pays maintenant qui s'islamisent de plus en plus, il y a donc des stations de diffusion de radio extrêmement importantes qui diffusent évidemment la bonne parole coranique. Kadhafi, notamment, est un des plus grands apôtres de l'évangélisation par la, enfin, l'évangélisation, entre guillemets, par la radio. Donc, bon, si bien que là, on est aujourd'hui encore en pleine compétition, n'est-ce pas, entre l'islam et le christianisme. Pour la conquête de l'Afrique, la partie n'est pas jouée. Et on pourrait même dire qu'il y a un certain avantage, léger avantage, au bénéfice de l'islam aujourd'hui, pour des raisons que nous verrons justement la prochaine fois. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus?